Alors, je vous invite à tourner avec moi dans le livre de Jonas ce matin. C'est vraiment un livre surprenant. Un livre très surprenant. J'aimerais ça vous relire. Le livre a 48 versets. Hein? Je vous lance le défi à chaque semaine. 48 versets, je pense qu'on peut le lire une fois par semaine. Et on termine la semaine prochaine. Mais je vais vous lire donc trois gros chapitres de 10 versets chacun. C'est bon? Et on va juste replonger dans notre texte avant d'aller dans un mot de prière. Jonas, tout petit prophète, si vous n'êtes pas familier avec les Écritures, vers la fin de l'Ancien Testament. Jonas 1:1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent les uns aux autres, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas, et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, « Je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temps. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône et ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dans leurs mains dont leurs mains sont coupables. Qui sait? Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. On va prier ensemble. Qui, Seigneur, connaît ta grâce? Qui connaît, Seigneur, la mesure de ta compassion et de ta grâce? Qui sait, Seigneur, qui tu sauveras, qui tu iras chercher? Quel rebelle, Seigneur, quel pécheur, quel cœur tordu, Seigneur, tu atteindras par ta grâce? Père, je veux te remercier pour ce livre qui me surprend, Seigneur, qui m'aide à comprendre un peu plus la grandeur, la profondeur, la hauteur de ton amour, Seigneur. Père, je veux te demander de nous accompagner par ton esprit ce matin. Nous avons besoin, Seigneur, d'être émerveillés par ta grâce. Nous avons besoin, Seigneur, de mesurer un peu plus la grandeur de ta grâce et de ta compassion pour nous, pour tous les hommes, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, d'être libérés de notre religiosité, d'être libérés de notre rébellion, d'être libérés, Seigneur, de nos péchés. Et Seigneur, encore une fois ce matin, je vois que cela n'arrive, Seigneur, que par ta grâce. Seigneur, ne permet pas qu'un cœur, qu'une personne parte ici sans avoir été touché par ta grâce. Je t'en supplie, mon Père. Je t'en supplie. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen. C'est un livre vraiment surprenant. Et probablement que vous êtes tellement habitué à ce récit-là, vous l'avez entendu certains d'entre vous depuis l'école du dimanche, qu'il n'y a plus de surprise, vous n'êtes plus émerveillé par la grâce de Christ. Mais elle est là, elle est partout dans les pages, partout dans cette histoire. Je pense que probablement la petite portion du livre de Jonas qui nous donne le meilleur indice sur le message de ce livre-là, ce sont les paroles prononcées par le roi au verset 9, Jonas 3, 9. Lorsque le roi dit « Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas? » Qui connaît la mesure de la compassion de Dieu? Qui connaît la mesure de l'amour de Dieu? Personne. qui sait s'il y a des gens rebelles autour de vous? Pour qui vous êtes tellement incrédule de voir leur conversion, de voir leur cœur s'ouvrir à la grâce? Vous les voyez comme des gens tellement, tellement rebelles à Dieu, tellement indifférents, inaccessibles. Vous parlez de l'Évangile, vous parlez à un mur. Qui sait si Dieu ne viendra pas leur faire grâce comme il le fait pour Ninive? Qui connaît la mesure de la grâce de Dieu? Je crois personnellement, parce que Dieu, dans le livre de Jonas, nous montre à la fois les idolâtres rebelles qui ne connaissaient rien de l'Éternel, qui ne pouvaient pas distinguer leur droite de leur gauche, spirituellement, moralement, ils ne connaissaient rien de Dieu. Et en même temps, dans le livre de Jonas, on voit l'homme qui connaît Dieu. Et clairement, Dieu est en train de nous dire, un comme l'autre ne connaissent pas la grâce de Dieu vraiment encore. Un comme l'autre n'ont pas été vraiment bouleversés par la compassion de Dieu. Un est religieux et l'autre est idolâtre. Mais tous les deux sont pris dans des carcans qui les empêchent d'être vraiment bénis par la grâce de Dieu. Et donc, je pense qu'il n'y a personne ici, dans cette salle ce matin. Il n'y a personne ici qui connaît encore vraiment la grâce de Dieu. Et lorsque je lis le livre de l'Apocalypse, ce que je vois, c'est que dans l'éternité, nous allons encore découvrir et mesurer la grâce de Dieu, parce qu'au centre de notre adoration, ce qu'il y a dans l'Apocalypse, c'est l'œuvre de Christ à la croix. Pendant l'éternité, nous allons mesurer et savourer la grâce de Dieu et son amour et sa compassion. Le passage de ce matin, le chapitre 3, commence avec le plus mauvais message que j'ai jamais entendu dans ma vie. Prêché par le plus mauvais prédicateur que j'ai jamais entendu dans ma vie. Au pire des pécheurs que j'ai jamais rencontrés. Et Dieu va faire éclater sa grâce. Sérieusement, les pires des pécheurs. Jonas se lève enfin, il obéit avec très, très bon cœur, avec du feu vraiment. Il s'en va là pour les sauver, ces gens-là, comme on va voir, pas du tout. Mais Jonas se lève, il obéit, puis il s'en va prêcher. Il s'en va prêcher un jugement, c'est ça qu'il s'en va faire. Et il se rend en Assyrie, dans la ville de Ninive. Maintenant, vous entendez dans les églises évangéliques toujours dire ces peuples païens-là étaient terribles, ils étaient horribles, ils étaient méchants, ils étaient abominables. Et puis en même temps, vous vous dites, oui, mais le cœur de l'homme n'a pas changé. C'est vrai, mais il y a eu des époques assez cruelles et assez dures. Alors, ce matin, je vais faire quelque chose. Je vais aller un petit peu dans le, je m'excuse pour mon anglicisme, dans le gory, OK? Un tout petit peu, parce que je sais que vous m'entendez plus lorsque je vous dis que ces gens-là étaient violents et cruels, d'accord? Il y a un roi dont j'arrive jamais à me rappeler du nom, c'est trop bizarre à prononcer. Laissez-moi juste le lire pour pas dire n'importe quoi. Ce roi s'appelait Ashurnasirpal II. C'est bon, je l'ai dit juste une fois. Ce roi-là a vécu 100 ans avant Jonas. Et faites une recherche, vous viendrez prendre en note le nom, parce que vous ne le trouverez pas autrement. Mais faites une recherche sur le web, vous allez trouver, c'est un des rois assyriens pour lequel on a justement des écrits qui nous sont restés. Et ce roi-là prend le temps d'expliquer comment il conduisait ses guerres lorsqu'il allait à la guerre, comment est-ce qu'il se comportait. Vous comprenez, le traité de Genève n'existait pas à l'époque? Et donc, il n'y avait pas de règles et de lois sur comment est-ce qu'on traitait des prisonniers. Et donc, ce roi se fait une gloire de raconter comment il traitait les prisonniers. Et c'était un peuple incroyablement cruel. Il régnait par la peur. Alors, il raconte comment il coupait les nez, coupait les oreilles, coupait les mains de ses prisonniers, tout simplement pour les ramener. Dans un des récits, il prend le temps de raconter qu'il ramenait des jeunes hommes et des jeunes femmes de ces conquêtes-là. Il les ramenait en ville, tous ceux qui faisaient partie de l'élite des pays conquis. Il les ramenait en ville, et je m'excuse pour les plus jeunes, d'accord? C'est vraiment affreux ce que je vais dire là. Mais je vous le dis, vous ne me croyez pas lorsque je vous dis qu'ils étaient cruels, violents et abominables, ces gens-là. Et ils l'étaient. Et ce que ce roi-là raconte qu'il faisait parfois, c'est qu'il Il écorchait vif, ça veut dire qu'il dépeçait vivant, d'accord? Il enlevait la peau de ces gens-là sur la place publique, littéralement vivant, pour après ça pouvoir mettre leur peau sur les murs de sa ville à lui. Et ensuite de ça, il les brûlait vivants, s'ils étaient encore vivants. D'accord? C'était un peuple cruel qui régnait par la peur et par la cruauté. Et ce roi se glorifiait de cette violence. D'ailleurs, ça apparaît très clairement parce que lorsque le roi prend au sérieux les paroles de Dieu, il le sait très bien qu'ils sont un peuple violent et cruel. Alors, Jonas est envoyé pour aller s'adresser à ces gens-là qui étaient les moins probables. Ce sont ces gens-là qui avaient le moins de chances de se convertir. C'était la puissance de l'époque. Ils n'avaient aucune raison de craindre Dieu. Ils étaient des gens cruels, comme je l'ai mentionné. Ces gens-là n'allaient pas se convertir. Vous comprenez, lorsque Jonas entre dans cette ville-là puis il commence à s'adresser à eux, il n'y a pas de protection, hein? Il rentre dans la ville et il dit, tout ce qu'il fait, c'est qu'il dit, 40 jours et cette ville-là est détruite. Normalement, ce qui aurait dû se passer ce jour-là, c'est que la foule aurait dû commencer à rire, elle aurait dû commencer à se moquer de lui, et ça aurait dû terminer avec un barbecue, vous comprenez? Avec Jonas sur la brochette. Sérieusement, c'est comme ça que ça aurait dû terminer. Logiquement, c'est comme ça que ça se termine. Vous avez la puissance de la région qui est bénie, pense-t-elle, par tous ses dieux, et vous avez ce petit juif qui arrive là et qui commence à marcher seul dans la ville, d'accord? Avec un seul message, 40 jours et la ville est détruite. Ça aurait dû se terminer mal. Ce sont les gens qui avaient le moins de probabilité de se convertir. Ils n'étaient pas des gens religieusement sensibles. Ce n'étaient pas des gens qui cherchaient Dieu. Vous comprenez, ce n'est pas Nicodème là, ici. Là. On n'est pas en train de rencontrer des craignants Dieu qui ont juste besoin d'entendre l'Évangile pour se convertir. On parle des gens au cœur dur qui semblent bénis dans leur méchanceté. Car plus ils sont cruels, plus ils dominent. Quelles sont les personnes dans votre entourage, de votre connaissance, qui, selon vous, sont les moins probables d'accepter l'Évangile? Cherchez des noms, s'il vous plaît, dans votre tête. C'est qui là, les plus crasses de la gang? C'est les plus fermés. Là. Ils sont toujours en train de se moquer de la foi. Là. Ils ont du mépris, là. Ces gens-là étaient pires que ça. Ils ne vivaient pas à une époque de où il faut parler et être politiquement correct. Nous, on peut toujours arriver avec un petit argument du genre « Oui, mais tu sais, on vit dans une société multiculturelle, fait que c'est important que tu trouves aux autres cultures, moi je vais t'apporter ma culture. » Ça ne marchait pas de même. Et Dieu envoie Jonas pour leur dire qu'il s'en vient les foudroyer. Les pires des pécheurs à atteindre avec son message, puis honnêtement, le pire des sermons qu'on a jamais entendus. Écoutez, c'est un sermon de 7 mots. Pendant toute la journée, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit « Encore 40 jours et Ninive est détruite! » Il n'y a aucune grâce. Il n'y a aucune porte de sortie. Je comprends, certains vont me dire « Oui, mais c'est l'essentiel, tu sais. » Ils vont mourir dans 40 jours. Allumez les boys. C'est le temps de pleurer, c'est le temps de jeûner. Je comprends, mais repensez à la personne la plus rebelle à qui vous avez pensé tout à l'heure, puis asseyez-vous cette semaine. Hein? Asseyez-vous cette semaine, allez le voir, puis dites-lui, écoute, encore quelques années, puis tu t'en vas en enfer. De quoi tu parles? Je me répète, encore quelques années et tu t'en vas en enfer. De quoi tu parles? Non, je te répète, c'est mon sermon pour toi aujourd'hui. Encore quelques années et tu t'en vas en enfer. Il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas d'appel à la repentance, il n'y a aucune grâce qui est manifestée. Et si on lit bien Jonas, je me demande même s'il ne le faisait pas avec un sourire. Bon, peut-être qu'il avait trop peur d'eux pour avoir un sourire, mais je veux dire, dans le fond de lui-même, je pense que c'était encore 40 jours, puis vous allez tous mourir. Encore 40 jours, puis la ville va être détruite. La suite de l'histoire, c'est ça qu'elle nous révèle, n'est-ce pas? Dans son cœur, tout ce qu'il avait comme espoir, c'était ça. C'est le pire des sermons. Il n'y a aucune compassion. Nous, on approche les gens avec un message, puis on dit aux gens, écoute, un jour, tu vas te présenter devant Dieu. Puis Dieu va avoir à juger ta vie. Mais je veux juste que tu saches tout de suite, Dieu est amour aussi, puis a envoyé son Fils mourir sur la croix pour tes péchés. Hein, on sent le besoin tout de suite de parler de la grâce de Dieu. Il y a une porte de sortie parce que juste un Dieu juste qui condamnerait les méchants, tu sais. Je ne peux quand même pas parler de ça aujourd'hui à mon époque. Comment je vais leur expliquer ça? Une chance qu'on a l'Évangile. Pour leur dire, non, mais il est mort pour toi, tu sais. Oui, il est sévère, c'est un juge, mais il est mort pour toi, là. Je te le dis, il t'aime assez, il est mort pour toi. Tu peux peut-être accepter qu'il pourrait te juger? Hein, t'es-tu prêt à accepter qu'il pourrait te demander de rendre des comptes pour tes péchés parce qu'il est quand même mort pour toi? Il n'y a rien de ça ici. Il n'y a rien de ça. On a un mauvais sermon qui est extrêmement brutal, qui est apporté par un gars qui n'a pas le cœur à l'ouvrage, pantoute, qui n'est pas motivé par aucun amour pour ces gens-là. Et il leur annonce aucune porte de sortie, simplement le jugement de Dieu. Je vous le dis, ça aurait dû se terminer mal pour Jonas cette journée-là. Retenez ça, d'accord? Parce que Dieu fait quelque chose d'incroyable ici. Et c'est ça le livre de Jonas, c'est que Dieu va de surprise en surprise en surprise. Regardez bien ce qui est écrit au verset 4 et 5. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait dans la ville, puis il disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé là. Ces gens-là auraient dû tout simplement lapider Jonas, trouver des manières de le torturer, se payer un bon temps sur la peau littéralement de Jonas. Mais le verset 5 nous dit, « Les gens de Ninive crurent à Dieu. » Il y a quelque chose qui s'est passé cette journée-là où la puissance de Dieu est intervenue. Les gens les moins probables à se convertir, pour qui on apporte un prédicateur qui n'a pas du tout à cœur son message, qui apporte un message extrêmement brutal, se mettent tout à coup à croire en Dieu. Calvin a écrit, c'est évident que la puissance de Dieu accompagnait le messager. C'est évident que Dieu était derrière Jonas et Dieu est intervenu pour disposer ces cœurs-là. C'est un peu comme dans le livre d'Esther. Si vous n'êtes pas tellement familier avec l'Ancien Testament, il y a un livre extraordinaire qui est le livre qui nous raconte l'histoire de la reine Esther. Et il y a une particularité dans ce livre-là, le nom de Dieu n'est jamais mentionné. Dans tout le récit qui nous montre la souveraineté de Dieu comme probablement aucun autre livre de la Bible, d'une manière extraordinaire, on voit que Dieu est derrière toute chose et Dieu dispose toute chose en faveur du peuple d'Israël. En même temps, le nom de Dieu n'est jamais mentionné. Mais de la même manière ici, c'est jamais écrit « Dieu intervient pour disposer leur cœur ». Mais écoutez, c'est pas croyable ce qui se passe là. La ville entière croit à Dieu. La ville entière écoute les paroles de Jonas et reçoit ces paroles-là comme des paroles de Dieu. Il a fallu que Dieu fasse une intervention absolument extraordinaire à ce moment-là. Dieu avait sa main, non seulement sur le messager, mais sur les gens qui ont écouté, parce que les gens se mettent à réagir d'une manière incroyable. C'est un réveil probablement sans pareil dans l'histoire de l'humanité qui se passe là. La ville entière commence à jeûner et à prier. Et le roi, verset 6, la chose parvint au roi. La ville est déjà en mouvement. La ville est déjà en train de répondre. Les gens qui suivent Jonas sont en train de pleurer, croyant à Dieu. Mais la chose vient aux oreilles du roi. Verset 6, « Il se leva de son trône et ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. » Encore une fois, je veux dire, cet homme-là aurait juste dû prendre possession de ce petit bonhomme-là qui est en train de troubler sa ville, qui est en train de troubler son économie, qui est en train de porter atteinte à son leadership, envoyer des soldats l'arrêter, le jeter en prison, puis le garder pour un petit jouet de fin de soirée. C'est ça qui aurait dû se passer, non? Ça s'est passé plein de fois dans les Écritures, ça s'est passé dans l'histoire du christianisme, combien de fois à travers les âges, où des chrétiens sont arrivés, ils ont annoncé le message, boum, persécutés, massacrés, à Rome, partout. Je repensais à M. Elliott, mangé par des cannibales à qui allait annoncer l'Évangile. Je veux dire, c'est arrivé des dizaines de fois. C'est ce qui aurait dû se produire là. Mais la main de Dieu est sur Jonas, sur son message, parce que Dieu veut faire éclater la gloire de sa grâce. Dieu veut manifester la gloire de sa grâce et Dieu va bouleverser cette ville. Et ces gens commencent à croire à Dieu. Et on assiste ici à une superbe repentance. Vous voulez savoir c'est quoi la repentance lorsqu'on parle de la repentance? C'est ça. Ces païens-là qui n'ont aucun discernement. Écoutez, ils demandent à leurs animaux de se repentir. On s'entend qu'on a des problèmes théologiques, là? Il y a des choses qu'il faudrait régler. Comprenez? C'est comme, tout n'est pas là, là. Attendez, les gars, on va faire un cours. Les animaux, non. Ils sont mêlés. Quand vous avez des doutes à savoir si les gens autour de vous qui ne connaissent pas la Bible savent qu'ils sont pécheurs, allez lire le livre de Jonas. Et écoutez, relisez les paroles du roi. Ces gens-là savaient qu'ils étaient pécheurs. Ils savaient que ce qu'ils faisaient était des abominations. Bien sûr, ils y prenaient plaisir, je suis d'accord. Mais ils savaient que c'était des abominations devant un Dieu quelconque. Et on assiste ici à une repentance absolument extraordinaire. Regardez ce que le roi commande. Ce que le roi commande. Au verset 7. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, les petits chiens, les chihuahuas, vos chats, vos hamsters, ne goûtent de rien, ne pincent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force. Ça devait être vraiment beau. Les vaches qui se mettent à beugler. Qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Regardez, c'est pas compliqué, il n'y a aucune excuse. Vous voulez savoir c'est quoi une belle repentance? Je vous donne ça dans le mille, quatre éléments, d'accord? Aucune excuse, jamais le roi dit « Non, mais écoute, on ne le savait pas, nous on n'avait jamais entendu parler de ça, on était innocents dans tout ça, c'est pas vraiment notre faute, tu sais, mes parents étaient durs avec moi quand j'étais petit. » Je mangeais des tapes en arrière de la tête, c'est pour ça que je coupe des nez puis des oreilles. Rien, aucune excuse. C'est ça la repentance. Aucune excuse. Il dit, cherchez l'Éternel, criez à lui, on se tourne vers Dieu, on supplie son secours. Abandonnez vos péchés, vos mauvaises actions, vos mauvaises pensées. Regardez au verset 8, il dit « Qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. » La repentance commande que j'abandonne mon péché. Et à la fin, le roi dit « Qui sait si Dieu ne nous fera pas grâce? Qui sait si Dieu ne nous pardonnera pas? Qui sait si Dieu ne retiendra pas son jugement contre nous? » La repentance, aucune excuse, chercher l'Éternel, crier à lui, abandonner ses péchés tant en action qu'en pensée et tout simplement s'en remettre à la grâce de Dieu. C'est ça la repentance. Tournez avec moi dans Ésaïe 55, s'il vous plaît. un tout petit peu plus loin, prophète, un gros prophète, grand prophète, c'est-à-dire, vous allez pouvoir le trouver rapidement. Excusez-moi, un peu plus tôt, Ésaïe 55. Je vais vous lire les versets 6 à 9, d'accord? Et vous allez voir que ces gens-là, qui étaient des païens, qui ne connaissaient rien de la parole de Dieu, ont tout simplement fait ce que Dieu s'attend de nous. Tout simplement. Tout simplement. Ésaïe 55, versets 6 à 9. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Dans leur cas, il leur restait 40 jours pour le trouver. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et là, c'est l'Éternel qui prend la parole, qui dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ces gens-là n'avaient aucun discernement. Ils demandent à leur chien, leur chat, leur hamster, leur poisson de se repentir. Ils ne connaissaient rien à la parole de Dieu. Et pourtant, ils ont fait exactement ce que Dieu s'attend d'un pécheur. Ils ont crié à Dieu sans se donner aucune excuse. Ils se sont détournés de leur péché, de leur mauvaise voie. Ils ont renoncé à continuer ce style de vie-là. Et ils se sont remis entièrement à la grâce de Dieu. C'est ça la repentance. C'est ça la repentance, c'est simple. Et le roi prononce cette phrase absolument extraordinaire. Il dit au verset 9, je reviens dans Jonas 3, 9, « Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère? » Qui sait quelle est la mesure de la compassion et de la grâce de Dieu? Je crois que Dieu a placé ce livre dans les Saintes Écritures. Dieu a inspiré ce récit à Jonas qui nous raconte son histoire. Et comme j'ai dit, je pense que cet homme-là un jour a réalisé sa bêtise, sa folie, parce qu'il a fallu qu'il raconte ça et c'est vraiment pas à son honneur. Attendez la semaine prochaine, on n'a rien vu encore. C'est vraiment pas l'honneur de Jonas, mais je crois que Dieu a placé le livre de Jonas dans les Saintes Écritures pour que nous saisissions davantage l'Évangile. L'Évangile de la grâce de Dieu. Et Dieu prend le peuple le plus improbable de recevoir l'Évangile et envoie son plus pire messager. Et il fait éclater la gloire de sa grâce. Parce qu'une ville entière vit l'un des plus grands réveils de l'histoire de l'humanité, alors qu'elle a le plus pire des messagers de la grâce qui vient vers elle. Nous ne connaissons pas la mesure de la grâce de Dieu. Jonas ne la connaît pas. C'est ce que la suite de l'histoire nous révèle. Jonas ne connaît pas la mesure de la grâce de Dieu. Dieu avait arrêté son jugement contre ces gens-là. Dieu l'avait déclaré, il avait donné sa parole. Alors pourquoi est-ce que Dieu pardonne à des gens aussi abominables? Vous comprenez, ces gens-là ne feront pas de temps. Ils n'iront pas en dedans. Ils sont pardonnés. Pourquoi est-ce que Dieu pardonne à des gens aussi abominables et pécheurs dès qu'ils se repentent? Ils n'ont pas fait leur preuve. Pourquoi est-ce que Dieu pardonne à ces gens abominables dès qu'ils se repentent? Parce que Dieu prend plaisir à faire grâce. C'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu qui nous a créés. Dieu prend un immense plaisir à faire grâce. Et tout ce qu'il demande, c'est que nous crions à lui, que nous nous repentions. Dieu aime manifester sa gloire en sauvant les gens les plus improbables. Tournez avec moi dans 1 Timothée 1, versets 15 et 16. 1 Timothée 1, 15 et 16. C'est exactement la conclusion de Paul. L'apôtre Paul, c'était l'opposé complètement. C'était l'homme religieux, violent, qui persécutait des chrétiens et qu'il faisait au nom de Dieu. Et il dit au verset 15 et 16, 1 Timothée 1, 15 et 16, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier, toute sa longanimité pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. En d'autres mots, Paul est en train de dire, Dieu m'a sauvé pour montrer qu'il est capable de sauver n'importe qui. Même des gens cruels comme moi. Même des gens qui persécutaient les chrétiens et le nom de Christ. Dieu prend plaisir à faire grâce. Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir vos cœurs et croire que Dieu est prêt à faire grâce aux gens autour de vous que vous ne rêvez même plus d'atteindre avec l'Évangile? Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir votre cœur et croire que Dieu veut faire grâce aux gens de Longueuil? Je sais qu'ils sont indifférents envers la foi. Je sais qu'ils pensent que croire en Dieu, c'est pour les arriérés mentaux. Je sais tout ça. Mais je ne vous parle pas des gens de Longueuil. Je ne vous parle pas des gens autour de vous. Je vous parle de Dieu ce matin. Je vous parle de son cœur. Les gens de Nénive n'avaient aucune chance de se convertir. C'est des gens rebelles, violents, indifférents. Puis honnêtement, ils réussissaient dans leur violence. Comprenez, ces gens-là avaient tout pour dire, plus tu es violent, plus tu es méchant, plus tu réussis, plus tu vas avoir tout ce que tu veux dans la vie. Le plus violent de la gang, c'est le roi, regarde, lui, il a réussi, moi je vais être comme lui. Ces gens-là n'avaient aucune probabilité statistique de se convertir. Des fois, on implante des églises, puis on choisit des régions, puis là on dit, OK, là il faut prendre telle méthode, parce qu'on va aller atteindre ce secteur-là, puis on veut atteindre ces gens-là, puis on veut qu'ils comprennent notre langage. Oui, OK, je comprends. Oui, ouais, on veut qu'ils nous comprennent. Mais c'est Dieu qui fait la différence. Et Dieu montre sa gloire en se servant de Jonas. Vous comprenez, Jonas, c'est un loser. C'est un rebelle. C'est un rebelle qui n'a pas à cœur le champ missionnaire où Dieu l'envoie. C'est un rebelle qui va donner le minimum du message. Dieu vous haït, s'en vient vous tuer. Essayerai ça cette semaine. Tu es un pécheur, tu vis dans le péché, Dieu haït ça, il s'en vient t'éliminer. That's it. Puis je ne prierai pas pour toi parce que j'attends juste que ça se passe. C'est Jonas! Écoutez, si Dieu peut sauver cette ville avec un gars comme Jonas, est-ce qu'il peut se servir de vous et moi pour conduire des gens à Christ? Est-ce qu'on est capable, vous et moi, de mettre un peu plus de cœur à l'ouvrage que Jonas? Est-ce qu'on est capable d'avoir un petit peu plus d'amour que Jonas pour les gens autour de nous? Moi, je pense que oui. C'est Dieu qui fait la différence. Cette semaine, j'étais en train de préparer le message, puis c'était tellement humiliant, mais dans le bon sens du terme, vous comprenez? Quand tu lis ça, je l'ai écrit hier sur Facebook, j'ai dit, pourquoi je mets autant de temps à préparer des sermons quand c'est juste Dieu qui fait la différence? Regardez le message de Jonas, puis le gars, il n'est même pas là. Nous, on s'examine, puis là, on dit, ouais, je pense que je ne suis pas qualifié pour annoncer l'Évangile, tu sais, parce qu'hier, je n'ai pas fait mon culte personnel. Ouais, puis tu sais, je me suis fâché hier, fait que je pense que je pourrais pas parler de Dieu. Sérieusement? Dieu prend plaisir à sauver les moins probables des personnes à travers les plus mauvais messagers. Je pense qu'on qualifie. C'est bon? Amen. Mais Dieu n'a pas terminé avec son messager. Il y a un message encore pour le messager. On va voir ça la semaine prochaine. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, nous ne connaissons pas la mesure de ta grâce. Nous ne connaissons pas la mesure de ta compassion, Seigneur. Nous ne connaissons pas à quel point tu aimes les gens de Longueuil, tu aimes nos familles. Tu dis dans ta parole que tu veux que tous les hommes soient sauvés, Seigneur. Mais d'une certaine manière, nous sommes comme Jonas, Seigneur. Nous regardons aux gens autour de nous comme à ces Ninivites et nous nous disons, il n'y a rien à faire avec eux. Ce sont des maudits qui méritent d'être maudits. Leur cœur n'est pas ouvert à toi, Seigneur. Seigneur, on vit à une époque où on n'oserait jamais dire ces choses de cette manière et pourtant c'est le fond de notre cœur. Nous ne voyons pas comment ton évangile peut entrer dans leur cœur, Seigneur. Dans le fond de notre cœur, dans le fond de notre cœur, Seigneur, nous croyons que notre cœur est fait différemment du leur, avait une forme différente. Notre cœur à nous avait une place pour une croix, mais peut-être pas le leur. Et nous croyons, Seigneur, qu'il faut être de bons orateurs, il faut être des chrétiens parfaits, qualifiés. Et Seigneur, nous volons ta grâce. Nous volons ta grâce, Seigneur, pensant que ça dépend de nous, pensant que ça dépend de nos qualités oratoires, que ça dépend de nos capacités à bien dire les choses, Seigneur. Mais tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous aider à saisir la grâce. Et tu m'as sauvé, Seigneur Jésus, pas parce que j'étais un bon gars. Et tu sauves aujourd'hui, pas parce que je suis un bon chrétien. Et tu touches des cœurs, Seigneur, pas parce que je suis un bon pasteur. Mais parce que tu es amour, Seigneur. Amour et grâce. Et tu sondes le cœur des hommes et tu envoies tes messagers et tu cherches, Seigneur, des cœurs repentants qui vont crier à toi pour leur faire grâce. Fais-nous grandir, Seigneur. Aide-nous à marcher, à avancer par ta grâce. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.